France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Anouk Millot, Fanny Richet, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulé. C'est le dernier épisode d'une série de 8 sur les grandes mobilisations partout dans le monde contre les inégalités, la confiscation des richesses par une poignée de personnes et pour davantage de justice sociale. Série qui nous a conduits au Maroc, à Madagascar, en Indonésie, au Bangladesh, en Serbie, aux Philippines et au Népal. Aujourd'hui en Amérique latine, au Pérou. Le slogan cette fois, pas un mort de plus.
Les jeunes réclament la sécurité et la justice. Nous ne nous sentons pas vraiment protégés. Nous craignons de sortir un jour et de ne pas revenir, alors que nos parents nous attendent à la maison.
Regardez autour de vous, il y a tellement de policiers. Mais ils sont venus nous intimider. Quand on leur demande de venir nous protéger des crimes, personne ne vient.
Je suis indignée et très en colère contre ce gouvernement. Et surtout contre le Congrès, qui plaide les intérêts des partis politiques, alors que tous les partis politiques forment une mafia au sein même du gouvernement.
Ah, il faut les voir, les membres du Congrès au Pérou. Une photo a beaucoup circulé ces dernières semaines de manifestants en manifestants qui en a peut-être fait rire certains, mais qui a surtout attisé la colère. On y voit une députée affalée sur un canapé en cuir, téléphone portable à l'oreille et jambe gauche dépliée, non pas sur un accoudoir, mais sur le genou de son collaborateur qui, l'air absorbé, minutieux, lui coupe les ongles des pieds. Alors si les peaux mortes, les rognures d'ongles ou les mycoses étaient cotées en bourse, peut-être que les politiciens au Pérou en feraient l'élevage. Certes, cette députée a été sanctionnée, sans doute moins pour ce qu'elle a fait que parce que ça s'est su. Mais cela ne change rien à la déconnexion des politiques au Pérou. Leur autosatisfaction a évolué dans un milieu totalement coopté. Leur pouvoir de destituer les chefs d'État pour un oui ou pour un non et leur désintérêt apparent pour les besoins urgents, vitaux de la société. Pendant que les parlementaires se font couper les ongles de pied en carré, en rond ou en carré arrondi, c'est important. Le crime organisé se répand au Pérou. On compte aujourd'hui en moyenne 6 assassinats par jour et la pratique de l'extorsion est désormais courante. C'est tout cela à la fois que les slogans dénoncent dans les cortèges qui depuis le mois de septembre défilent dans les rues de Lima et d'autres grandes villes du Pérou. Pas un mort de plus, disent principalement ces jeunes qui se revendiquent eux aussi de la génération Z et demandent un nouveau pacte social. Bonjour Tania Romero Barrios.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante en études hispaniques à l'Université Paris 8, membre élu du conseil scientifique de l'Institut des Amériques et vous êtes également chercheuse à l'INALCO.
Oui.
Merci d'être avec nous. Nous sommes également en direct depuis Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane où il est 7h04 du matin avec Lycelle Quiros. Bonjour.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes professeur d'études latino-américaines à l'université Cergy Paris Université. Merci donc à toutes les deux. Et d'abord ce slogan, pas un mort de plus, on va le dérouler, on va l'expliquer, on va comprendre de quoi il s'agit, puisqu'on a surtout retenu de ce mouvement qu'il demandait le simple droit de ne pas mourir assassiné par les gangs et les mafias. Mais ce serait oublier que la colère a d'abord éclaté, Tania Romero Barrios, à l'annonce d'une réforme des retraites. La génération Z, ou celle qui se considère comme telle, se proclame génération Z, s'est tout de suite sentie concernée par cette réforme.
Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser qu'au Pérou, les retraites passent en fait par un fonds privé. C'est un peu un héritage du fujimorisme, en fait, qui dans les années 90 avait instauré ce qu'on appelle l'AFP et qui, en fait, dans l'actualité, cette réforme faisait que, notamment, les jeunes se voyaient le plus, disons, pénalisés par cette réforme parce qu'ils devaient être obligés de cotiser, en fait, alors qu'ils sont très précaires. Ils sont souvent dans le secteur informel et dans la mesure où ils étaient écouté les principaux concernés, ils ont commencé à faire justement ces mobilisations. Donc il faut se rappeler que c'est 275 € salaire minimum, enfin bref, une génération qui a subi le Covid, vraiment une énorme précarisation. Donc elle est sortie dans les rues avec ce mot d'ordre en fait contre les réformes des retraites, mais qui a été aussi voilà un peu en syntonie aussi avec cette situation de hausse de criminalité en fait, voilà, qui a aussi intégré les mots d'ordre de cette mobilisation.
Une réforme des retraites héritée, disiez-vous, du fujimorisme, donc de la dictature d'Alberto Fujimori, qui a instauré une privatisation de nombreux secteurs, un petit peu comme celle de Pinochet au Chili. C'est un peu le même...
C'était vraiment inspiré du modèle chilien. Les années 90, c'est vraiment le début du tournant néolibéralisme, en fait, de Fujimori. Et justement, ce fonds de pension privé est un peu une belle image, en fait, de ces réformes-là qui touchent à la santé, à l'éducation, etc.
Et donc, une grande partie de l'emploi étant informel, vous le rappeliez, les jeunes en particulier qui travaillent dans le secteur informel se sont sentis visés, d'autant qu'au Pérou, les 18-29 ans représentent un quart de l'électorat. Donc, j'imagine qu'ils pensent aussi qu'ils peuvent compter. Ils sont sortis dans les rues pour dénoncer d'abord cette réforme qui a finalement été partiellement annulée. Alors, comment et pourquoi les revendications ont-elles ensuite porté sur l'insécurité qui n'est par ailleurs pas nouvelle au Pérou, Licelle Curios?
Oui, alors l'insécurité n'est pas nouvelle. Je pense que en fait là nous avons une étape supplémentaire pour le cas du Pérou. Je comprends bien que on a effectivement médiatisé, hein, ça arrive des points précis, mais on a une colère qui est montante depuis au moins la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Alors comme le disait Tania tout à l'heure, on a quand même un pays qui a 70% de ses travailleurs et travailleuses dans le secteur informel, et une grande partie d'entre eux sont des jeunes qui ne voient pas un futur avec de l'espoir et qui donc se révoltent contre cela d'abord, et la situation particulière qu'ils vivent, à savoir insécurité déjà du futur en termes de salaire, en termes d'emploi, en termes de conditions de vie, et insécurité qu'ils vivent au quotidien, parce que nous vivons là, les mobilisations de ces dernières semaines sont quand même celles des villes, et en particulier de Lima. Il faut savoir qu'on a une ville qui est une mégalopole avec près de 9 millions d'habitants, où une grande majorité de jeunes doivent vraiment s'organiser tous les jours pour aller trouver un emploi très précaire dans une ville qui n'est pas du tout adaptée et constituée pour pouvoir les contenir en termes d'habitat, de transport, de sécurité citoyenne, comme on dit au Pérou. Donc c'est tout cela en fait qu'on voit exploser, mais je dirais que c'est un petit peu comme la goutte qui fait déborder le vase. Hein, c'est pas quelque chose qui a surgi juste de cette réforme là, mais de quelque chose qui s'est accumulé au cours du temps.
Oui, d'ailleurs, comment est-ce que vous avez vu naître puis éclore, Licelle Curios, ce mouvement social qui, comme tous les autres qui se revendiquent de la génération Z, a été très spontané, donne cette impression de grande spontanéité, alors que très souvent, en fait, il se nourrit de mouvements précédents?
Oui, absolument. Il se nourrit de mouvements précédents, et en particulier, en fait, sur ces dernières années, l'instabilité politique, la répression très importante. Alors, peut-être qu'elle arrive en ville désormais à Lima, mais elle a été quand même présente pendant tout le gouvernement de Dina Boluarte, par exemple, où on a eu vraiment des situations de cas de répression importante avec des morts, de crimes contre l'humanité, de massacres en province, enfin dans les régions comme on dit aujourd'hui. Mais je dirais que ça, c'est peut-être ce qu'on vivait régulièrement et quotidiennement dans les campagnes péruviennes. Et aujourd'hui, la répression policière, elle s'attaque de plus en plus à la jeunesse des villes. Ça aussi parce que le mouvement, il s'intensifie, il se radicalise. C'est vrai que ce qu'on peut voir par rapport à la génération Z, pour moi, par rapport au mouvement des provinces et des régions qui étaient beaucoup plus ruraux, autochtones, eh bien ici, on a des préoccupations vraiment des liméniennes et des liméniens, à savoir, comme on le dit très bien, voilà, exactement, des habitants de Lima, sur la sécurité et contre la corruption, donc des préoccupations plus urbaines, je dirais, par rapport aux précédentes.
Donc un mouvement qui s'est organisé sur les réseaux sociaux, qui n'est pas encadré par les structures politiques classiques, qui s'est nourri aussi de mouvements récents en Amérique latine. Il y a en Amérique latine ce savoir, cette expérience, entre guillemets, le Chili en 2019, les mouvements sociaux en Bolivie depuis la fin du XXe siècle, même si le second tour des dernières élections, le 19 octobre, a opposé deux candidats de droite, et les mouvements autochtones en Équateur, mais aussi des mouvements récents hors d'Amérique latine.
Nous avons une grande référence, le Népal, qui a su faire changer les choses. C'est ce que nous voulons. Ici, au Pérou, l'an prochain, nous avons des élections. Et selon un récent sondage, nous représentons le plus grand pourcentage de ceux qui allons voter. Malheureusement, nous n'avons pas de conscience institutionnelle, démocratique, politique forte. Nous ne savons pas pour qui voter. C'est donc très important que nous, parce que nous sommes la nouvelle génération, sachions que le Pérou peut rester entre nos mains.
Alors, il y a quand même malgré tout au Pérou également une expérience des mobilisations, les grandes manifestations déjà en 2021 contre l'investiture du président Merino qui avait finalement tenu 5 jours à son poste, qui était parti sous la pression. Là, les mots d'ordre sont assez nouveaux puisqu'il s'agit de lutter contre l'insécurité dont se sentent aujourd'hui, à laquelle se sentent vraiment exposés les Péruviens et les Péruviennes. Tania Romero Barrios, qu'est-ce qu'on peut raconter d'événements récents qui ont vraiment fait prendre conscience de cette insécurité-là, outre cette fusillade lors d'un concert d'un groupe péruvien qui avait refusé vraisemblablement de verser de l'argent à un groupe mafieux, le groupe Agua Marina, un groupe de cumbia. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce climat d'insécurité qui réellement a changé depuis quoi, 3-4 ans au Pérou ?
Oui, tout à fait. Disons qu'il y a eu ces épisodes qui ont créé une véritable émotion nationale. C'est aussi la raison pour laquelle Dina Boluarte, enfin pour l'inclure un petit peu dans la destitution, en tout cas l'argumentaire de destitution de Dina Boluarte.
C'était la présidente qui a été destituée fin septembre.
Tout à fait, en fait, qui était jugée incapable de gérer cette crise de hausse de criminalité, donc 2,5% de popularité aussi. Bon, il s'agissait un peu d'un calcul politique de la part du Parlement, mais qui montre quand même comment on était arrivé à une situation dans laquelle, dans les quelques dernières années, vraiment 2-3 dernières années, cette criminalité, elle était complètement explosive en fait. Il n'y a pas juste la question des homicides, mais une criminalité qui a augmenté de 28% en fait cette dernière année. C'est pour ça que le secteur des transports fait plein de grèves en fait depuis septembre, octobre en fait au Pérou.
Pourquoi les transports ? Parce que les conducteurs de taxis, oui, de motos, de bus
notamment,
disent qu'ils sont eux-mêmes, enfin c'est pas ils le disent, ils le sont particulièrement exposés.
Exactement, il s'agit vraiment d'un des secteurs qui est le plus exposé à cette criminalité, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un des secteurs qui est le plus mobilisé. Donc le secteur des transports et la jeunesse en fait, qui ont aussi fait convergence au sein de ces revendications. Cependant, je pense qu'il est important quand même de préciser que cette criminalité peut aussi s'expliquer du fait que le Parlement a voté toute une série de lois en fait qu'au Pérou on appelle des lois pro-criminalité, qui sont une série de lois qui, dont la pratique, en fait, démantèle en fait toutes les instances qui sont chargées justement d'enquêter toutes les questions de criminalité. C'est des lois, par exemple, qui vont rétrécir la définition de crime organisé. Ce sont des lois qui vont faire en sorte à ce que la police enquête sur elle-même. En fait, enfin, vraiment de démanteler un peu ces services-là et qui sont un peu au cœur, en fait, de cette situation explosive.
En effet, les manifestants ne se contentent pas de dire qu'ils voudraient se sentir mieux protégés. Ils accusent la classe politique dans son ensemble d'être responsable de la hausse de la criminalité. Et l'ONG Human Rights Watch a donné raison à ces manifestants dans un rapport d'une quarantaine de pages il y a quelques temps, disant en effet que le Parlement avait démis de leurs fonctions des juges et des procureurs qui étaient en train d'enquêter sur la corruption, avait, comme vous le disiez, rétréci la définition de ce qu'est un réseau criminel et donc exclut certains réseaux de cette définition-là, y compris des réseaux de corruption. Il y a aussi le contexte régional, Tania Romero Barrios. L'Équateur, notamment, qui est juste au nord du Pérou, a vu la criminalité exploser ces derniers temps. On y a consacré des émissions. Et cette criminalité-là a débordé au Pérou.
Tout à fait. Et il faut peut-être préciser aussi le fait que si justement il y a eu toutes ces séries de lois qui ont été votées, c'est aussi parce que parmi les 130 parlementaires, il y en a 105 en fait qui ont des enquêtes judiciaires. Donc il s'agit de lois qui sont censées les autoprotéger en fait.
Et c'est 105 pourquoi, visés par des enquêtes parlementaires.
Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle parmi les revendications, on trouve aussi le qu'ils s'en aillent tous en fait. Parce que la population n'est pas dupe de ce qui est en train de se faire et pas juste en termes de... C'est pas juste par rapport à l'ancienne présidente Dina Boluarte, mais même l'actuel président Chéri, effectivement, il fait toute une stratégie de communication de un peu main forte, mais les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire la criminalité n'a pas du tout baissé au sein de ces quelques premiers jours, en tout cas à la tête du pays.
Et les plaintes pour extorsion ont bondi au Pérou de près de 30% par rapport à 2024. Donc extorsion exigée par des groupes criminels pour tout simplement laisser travailler les gens au quotidien. 16 000 extorsions sur les 7 premiers mois de l'année.
Cet individu m'a dit qu'il m'avait suivi. Il m'a donné le nom de mes filles, dans quelle université et dans quel collège elles allaient. Il m'a donné des détails très précis. Et il proposait de me protéger car selon lui, ma tête avait été mise à prix. 50 000 soles pour me tuer. Mais l'individu en question en réclamait 30 000 pour me protéger. Un jour, un policier m'a même dit « Si tu veux être tranquille, paye-nous 20 soles par jour. » Ça, c'est notre quotidien ici. On ne peut avoir confiance en personne. On est entre les mains de Dieu.
Une commerçante qui tenait auprès de France 24 à témoigner de manière anonyme, c'est pour ça que sa voix a été modifiée. 20 soles, c'est l'équivalent de 5 euros par jour, ce que lui a demandé donc cet homme qui est venu la voir un jour. Cette commerçante, les extorsions sont si fréquentes qu'un député a proposé que les victimes d'extorsion puissent déduire les sommes volées de leurs impôts. Alors ce député en question, il fait partie de la majorité parlementaire de celui qui est devenu automatiquement chef d'État parce qu'il était président du Congrès quand Dina Boluarte a été destituée, donc José Reri, 38 ans, issu des rangs de la majorité parlementaire de droite, 7e chef d'État péruvien en un peu plus de 9 ans, dans l'un des pays les plus instables politiquement au monde. Et dès le départ, Lissel Quiros, il arrive au pouvoir et il décrète l'état d'urgence le 21 octobre, donc un mois jour pour jour après le début des manifestations. Qu'est-ce que ça implique dans les rues de Lima, l'état d'urgence? C'est quoi? C'est un couvre-feu, plus de soldats déployés, et quel imaginaire aussi ça convoque?
Oui, alors, cet état d'urgence était une mesure pour, limiter la mobilisation, contraindre quand même et arrêter ce mouvement qui était en train de s'organiser. Donc c'est vrai une mesure véritablement de contrôle et qui répond en fait à cette... À ces formes-là de, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, je voulais aussi poser la question que c'est la criminalité, c'est pas non plus quelque chose qui vient, de surgir il y a quelques années. On a quand même 32%, par exemple, de la population de Lima qui vit dans les favelas. En fait, l'extrait que vous avez, très, très intéressant que vous avez passé, montre bien qu'on est aujourd'hui dans des villes, et ça ce n'est pas uniquement au Pérou, où la sécurité ne peut pas être assurée parce que les policiers sont plutôt mobilisés au moment de réprimer les mobilisations plutôt que dans la protection des habitants et des habitantes des villes. Donc il y a ce sentiment d'insécurité qui est régulier. Donc le président Chéri, il n'a joué là que sur... il a voulu dire que c'était une réponse contre la criminalité, cette mesure d'état d'urgence, alors qu'en réalité, elle visait plutôt la répression et la limitation du droit de l'exercice, du droit de manifester au Pérou.
Pratique assez récurrente d'ailleurs au Pérou, et sa prédécesseur Dina Boluarte l'a utilisée, je crois, à 4 reprises, notamment quand en 2022-2023, des Péruviens étaient sortis dans les rues contre la destitution du président Pedro Castillo. CEO, celle qui lui avait succédé, donc Dina Boluarte, n'avait pas hésité à lancer l'armée contre les manifestants. La répression avait fait 49 morts dans les Andes. Le fait que le mouvement social se déroule cette fois essentiellement dans la capitale, à Lima, Lissel Quiros, est-ce que ça change quelque chose, notamment dans l'usage que le gouvernement peut faire de la répression?
Oui, ça change beaucoup de choses. Alors, je dirais, comme en France, hein, on a un élargissement de la répression et une certaine, on va dire, militarisation quand même des villes, et surtout en Amérique latine, hein, on a une expérience en la matière, une militarisation qui avait déjà été, on va dire, expérimentée dans les régions. Alors, la différence entre Lima et les régions, c'est que la police, elle va réprimer, mais de manière un peu plus ciblée, disons, parce qu'il y a une protection des habitants et habitantes de Lima, puisqu'on est dans la capitale, alors qu'on peut faire de la répression beaucoup plus brutale et violente dans les régions avec des populations d'origine plutôt autochtone qui ont moins de protection et de sécurité. De fait, par exemple, dans ces mobilisations, on a déploré cet artiste Truco qui a été assassiné par la répression policière. Mais là, ça a suscité immédiatement une émotion de la population de la capitale, alors que des centaines voire des milliers de morts en fait dans les régions, elles ont moins impressionné ou ont mobilisé beaucoup moins. Donc vraiment, il y a une différence lorsque, et c'est pour ça que le gouvernement, il est très attentif en fait à ce qu'il appelle des débordements, mais à l'émotion populaire, surtout de la jeunesse, parce que la répression et la police doit réprimer, mais en même temps en évitant ces formes de violence extrême à Lima. Je dirais que ça serait la différence, et comment on peut le voir aussi dans d'autres pays. La police aujourd'hui, elle fait très attention. Donc en fait, on a une situation à la fois de policiers qui sont très militarisés, avec des outils de répression très sophistiqués, et doivent mesurer de justement ne pas trop abuser de ce matériel. Parce que sinon, il y aura une révolte encore plus forte.
Voilà, je ne sais pas si c'est lui que vous appelez, qui s'appelle Truco. C'est oui. Eduardo Ruizen, c'est ça, c'est le rappeur, d'accord. C'est un jeune artiste rappeur de Lima. Qui a été tué par un policier en civil. Et c'est vrai que sa mort a eu bien davantage de répercussions que les 49 morts de 2022 qui étaient davantage autochtones. Là, les manifestants sont plutôt blancs ou métis à Lima. Là, pour la mort de ce rappeur, le chef de la police de Lima a été suspendu. Oui, Tania Romero Barrios.
Oui, je voulais peut-être juste rajouter un élément par rapport à la question de l'imaginaire, de l'état d'urgence. Est-ce que ça me semble quand même important de parler du fait que cet état d'urgence ne fait que faire un rappel immédiat en fait à tout ce qu'on a vécu aussi pendant le conflit armé. Il s'agit aussi d'un recyclage en fait d'une rhétorique de guerre contre la criminalité ou de guerre contre un espèce d'ennemi intérieur.
Le conflit armé, vous parlez de celui du sentier lumineux, dans lequel était impliqué notamment le sentier lumineux opéré. Et cette mémoire est encore vive.
Exactement. Donc, ce conflit armé des années 80 à 2000, en fait, qui effectivement, on pourrait dire qu'il s'est poursuivi. En fait, ces violences se sont poursuivies dans un continuum. Mais ce qui m'intéresse d'évoquer, peut-être, c'est justement aussi un peu cette rhétorique qui est mise en place, en fait, état d'urgence, etc. Mais qui s'accompagne d'un élément qui me semble intéressant, qui s'appelle en fait au Pérou le terruqueo. C'est le fait de juger une personne comme terroriste, en fait. Ce qui permet d'un côté de délégitimer la mobilisation, en fait, ses revendications, mais ce n'est pas juste, en fait, quelque chose de rhétorique. C'est quelque chose qui a des conséquences pratiques très fortes. On l'a vu notamment dans le cadre des mobilisations de 2022-2023, c'est-à-dire que dans la mesure où les manifestants ont été jugés comme des terroristes, l'armée qui était dans les rues avait, entre guillemets, le droit de les tuer parce qu'elle était en train d'agir dans la défense de la nation. Donc, me semble important d'être mis en relief parce qu'il est aussi, il est en train d'être mobilisé aussi en fait dans l'actualité pour délégitimer la mobilisation, même pour délégitimer cette mort en fait qui a été, dans les mains d'un policier.
C'est vrai que pendant que le nouveau président décrète l'état d'urgence, mais surtout dit qu'il faut prôner l'empathie, la réconciliation nationale, il est allé à la rencontre des travailleurs du secteur des transports, il leur a promis des mesures de sécurité et de surveillance, en se retroussant les manches, un peu dans le style de Nayib Bukele au Salvador. Je ne sais pas si c'est ce qu'attendent les Péruviens, une politique ultra sécuritaire, peut-être. Vous allez nous répondre. Mais pendant que lui, José Géry, disait ça, qu'il fallait de l'empathie, son premier ministre Ernesto Alvarez comparait les manifestants à des terroristes. C'est un terme, ce terme de terruqueo, Lissel Quiro, c'est un terme proprement péruvien ou qu'on entend dans toute l'Amérique latine?
Alors, c'est un terme proprement péruvien. Terruqueo, c'est proprement péruvien. Mais cette rhétorique, en fait, de délégitimation des mobilisations antigouvernementales est plus générale. Je veux dire, on le voit ailleurs dans la région, voire dans le monde. Enfin, aujourd'hui, si on peut faire le parallèle, par exemple, dans le cas de la Palestine, les Palestiniens sont aussi présentés comme des terroristes. Donc, en fait, les mobilisations des jeunes, d'ailleurs, en général...
Vous voulez dire les Palestiniens dans leur ensemble, oui.
Voilà, exactement. Ils sont assimilés aussi. Enfin, lorsque on se révolte, et je pense que c'est ailleurs, c'est aussi le cas dans d'autres pays. La jeunesse est associée en fait au terrorisme dans cette vision d'ailleurs orientaliste dont parlait Édouard Saïd dans son livre sur l'orientalisme, de créer cet ennemi comme un ennemi très violent, ce qui va justifier la répression ultra-violente contre ces personnes. Donc, en fait, c'est un phénomène plus global, mais qui, au Pérou, s'appelle le terruqueo, et qui, effectivement, comme l'a dit Tania, remonte à l'époque du conflit armé qui s'est développé, ou qui s'est manifesté entre 1980 et 2000, où l'État a pu développer des politiques très, très, très répressives et de crimes contre l'humanité, en accusant les paysans, surtout autochtones, qui s'étaient révoltés de terroristes et d'être en association avec la guérilla marxiste-léniniste Sentier Lumineux. Donc en fait, au Pérou, être terruco, c'est être associé ou assimilé à ces groupes de violence, de guérilla, et qui étaient pour la lutte armée au Pérou.
Et je dois dire que c'est une constante, d'ailleurs, c'est en effet propre, spécifique au contexte historique péruvien, mais c'est aussi une accusation, celle de terrorisme, qu'on entend, qui est récurrente, qu'on entend depuis le début de la série dans tous les pays dont on a parlé. À chaque fois qu'il y a des manifestants, ils sont traités soit de terroristes, soit de séditieux par les pouvoirs. Et en tout cas, à Lima, les étudiants péruviens ne sont pas dupes.
Nosotros nos han tildado de terroristas, de rojos, de entre un montón de cosas, de sendero luminoso a mí me han tildado.
On nous a qualifié de terroristes, de rouges et encore beaucoup d'autres choses, au même titre que le sentier lumineux. Mais nous ne voulons pas le pire pour le pays, n'est-ce pas? En tout cas, je ne veux pas le pire pour le pays. Je veux le meilleur pour le pays, c'est-à-dire un gouvernement qui nous représente, qui nous écoute et qui ne légifère pas dans le dos du peuple, contrairement à ce qu'a fait le gouvernement précédent.
Et c'est également opportun de mobiliser ce lexique-là, comme le dit cet étudiant à l'AFP espagnole, à l'approche des élections, parce que des élections doivent avoir lieu dans quelques mois. Est-ce qu'on entend au Pérou ce terme terruco ressurgir à chaque élection?
Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il est important de préciser en termes historiques que le fujimorisme, en tout cas lorsqu'il y avait Fujimori, justement, il a construit un peu sa base sociale, populaire et électorale dans la lutte contre le terrorisme, en fait, des années 90, la lutte contre le sentier lumineux. Et c'est quelque chose qui persiste malgré la mort de Fujimori. C'est un petit peu l'héritage du fujimorisme, en tout cas d'Alberto Fujimori, et qui revient à chaque élection. Mais vraiment, chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, il y a un ressurgissement du fantôme, en fait, du sentier lumineux qui réapparaît. Est-ce que c'est cette peur, en fait, qui permet, jusqu'à présent, de construire une possible potentielle base électorale, notamment dans une circonstance de décrédibilisation, en fait, de la classe politique, en fait. Donc, c'est un petit peu l'argument un peu de force qui perdure et qui est encore mobilisé contre toute une série de détracteurs ou rivaux politiques actuellement.
Et en particulier par les fujimoristes. Or, la fille d'Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, a annoncé début novembre, c'est tout récent, qu'elle se présentait aux élections générales d'avril 2026. Élections générales parce qu'au Pérou, il y a l'élection présidentielle et l'élection des 130 députés. Il y a déjà une quarantaine de partis en lice. On verra en quoi ils se distinguent les uns les autres et si le mouvement social peut s'inscrire dans ces élections-là. Lissel Quiro, vous souhaitiez réagir d'abord?
Oui, je souhaitais réagir par rapport à cette question du terrorisme, effectivement, qui est un leitmotiv, je dirais, au Pérou depuis le conflit armé. Hein, il y a cette façon de délégitimer, de criminaliser toute mobilisation sociale, surtout lorsqu'elle émane de populations subalternes, qu'elles soient autochtones, métisses, racisées en général. Hein, en fait, quand on est terruco, veut également, il y a une dimension raciale dans cette expression, puisque on va, et de genre, puisque ce sont plutôt adressés à des jeunes hommes racisés, soit autochtones ou métisses, qui sont intégrés dans cet espace-là, et ça va directement aujourd'hui. C'est on cible cette génération Z, puisque cette génération Z, elle est issue de cela, de ce disons de tous ces groupes qui n'ont pas été écoutés, qui se retrouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dont on n'a pas besoin d'être dans les beaux quartiers de Lima pour pouvoir être intégrés dans ces réseaux, de créer des communautés. Et je pense que c'est quelque chose de spécifique. Il y a beaucoup de collectifs de jeunes de toutes, disons, d'origine de différentes régions qui se retrouvent dans ces communautés et qui porte aussi ce mouvement, hein, un mouvement qui ne le dit pas de lui-même. Hein, il présente effectivement la question de la criminalité, de la justice devant, mais il y a aussi cette justice qui est une justice sociale, d'être reconnus comme des Péruviens et des Péruviennes à part entière, même s'ils viennent de régions très pauvres.
Et vous, Lycelle, Lycelle Quiros, ça vous le retrouvez aussi dans la mobilisation d'aujourd'hui, l'héritage de décennies de mobilisation de cette histoire-là, le procédé de la grève générale, par exemple, qui est assez ancien au Pérou, ça c'est quelque chose qu'en tant qu'historienne, vous retrouvez. Si je vous pose la question, c'est parce que dans la série, en fonction des pays et des mobilisations dont on a parlé, c'était plus ou moins pertinent justement de faire la comparaison d'après nos invités. Pour le Pérou, ça vous paraît pertinent ?
Moi, ça me paraît pertinent. En fait, la jeunesse elle-même, elle pense qu'elle a... inventer un mouvement, et c'est vrai qu'il est spécifique parce qu'il est original par rapport au contexte présent. Mais elle hérite aussi, cette jeunesse, de traditions, de savoir dont elle ne perçoit pas la généalogie. Il y a définitivement une généalogie, pour moi, hein, de contestation de tout un groupe de jeunes péruviens et péruviennes qui étaient exclus du pouvoir, on va dire, et même de la possibilité de s'exprimer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent cela et permettent à des personnes qui n'étaient pas du tout considérées véritablement comme des Péruviens, des Péruviennes à part entière, qui avaient les mêmes droits, d'exprimer aussi. Je pense que la jeunesse, elle réclame également le droit à la dignité, à être considérée vraiment comme des personnes à part entière.
Tania Romero Barrios, une jeunesse qui, par ailleurs, a compris qu'on essayait que les politiques aujourd'hui, en décrétant l'état d'urgence plus souvent qu'à leur tour, ou en parlant des manifestants comme des terroristes, essayaient de convoquer cet imaginaire particulier des années de guérilla du sentier lumineux. Elles l'ont compris, elles essayent de mettre tout ça à distance. Mais qu'est-ce qu'il en reste des traces de cette dictature dans le fonctionnement politique péruvien aujourd'hui ?
Oui, alors il faudrait préciser que même si le Pérou est un pays présidentialiste, ce qui s'est passé dans l'actualité, c'est qu'on vit dans un contexte où le Parlement a une force extrêmement forte et qui fonctionne par coalition, en fait. Des coalitions parlementaires, dont le fujimorisme est un petit peu à la tête, ce qui fait que, en fait, ils ont réussi à avoir un tel pouvoir qu'ils sont presque intouchables, en fait. Il y a une impunité extrême, dont je parlais des enquêtes judiciaires, etc. Par exemple, je cite cet exemple du Sénat-Parlement, le Pérou a voté contre, en fait, en 2018, à une immense majorité. Contre la création d'un Sénat, pardon.
Une sorte qui est deux chambres. De giga-Sénat, Sénat-Parlement. Voilà, ah oui, d'accord, du regroupement du Sénat.
Qu'il y a un Parlement et qu'il y a un Sénat.
D'accord.
Et pourtant, le Parlement, ce qu'il a fait depuis ces deux, trois dernières années, c'est réformer complètement la Constitution. Enfin, ils ont fait énormément d'amendements à la Constitution. Maintenant, il y aura un Sénat dans lequel une bonne partie du Parlement va se recycler, en fait, politiquement. En fait, ils ont fait énormément de lois pour s'autoprotéger, en fait. Ils ont fait énormément d'amendements à la Constitution, ce qui est un paradoxe, parce que dans les mobilisations, par exemple, du Covid 2020-2021, une des revendications, c'était justement Assemblée constituante, nouvelle Constitution, parce que c'est aussi un héritage, d'ailleurs, la Constitution de Fujimori. C'est une constitution du fujimorisme, en fait, après l'autocoup d'État. Et ce qu'on peut voir, en fait, à travers tous ces éléments-là, c'est que vraiment, dans l'actualité, on a des présidents presque par intérim, en fait. Et c'est véritablement le Parlement qui gouverne. Et qui gouverne par coalition.
Et qui parfois destitue intervenir. Un président ou une présidente pour incapacité morale. Ça, c'est un...
Tout à fait.
On sort la carte de l'incapacité morale, pas tant que parfois la chute d'un président ou d'une présidente peut être justifiée, ou en tout cas demandée par la rue, mais en tout cas, la carte qui est sortie n'est pas toujours justifiée, elle.
Exactement. À partir du moment où on a utilisé pour la première fois, en fait, cette carte de l'incapacité morale, en fait, c'est devenu presque vraiment la carte qu'on sort chaque fois que on veut en fait réorganiser dans la convenance en fait de cette coalition parlementaire. Et là, je précise que c'est pour ça que j'ai insisté sur la question du calcul politique. Là, Dina Boluarte ne leur était plus utile. C'était une présidente qui avait 2,5% de popularité. Les élections approchaient, donc il valait mieux prendre ses distances de cette présidente complètement impopulaire pour se présenter un petit peu comme les sauveurs et surtout assurer l'intérim en mettant quelqu'un en fait qui pourrait leur être utile et pouvoir construire justement la campagne pour les élections d'avril 2026.
Lycelle Quiros, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Très intéressant ce que vient de dire Tania Romero, parce qu'en fait le Pérou a un système, c'est une république et qui aurait un régime présidentiel, mais en réalité dans les faits c'est le Congrès qui est un Congrès unicaméral qui a pris progressivement le pouvoir, et c'est lui qui régit effectivement ce qui fait, c'est ça qui fait que on est le Congrès a le pouvoir finalement absolu, on peut dire, et c'est ce qui a permis les destitutions qui sont de nombreuses depuis le début du XXIe siècle et qui concentrent le pouvoir, alors que ce Parlement et le représentant normalement de différents partis politiques, et c'est un tellement nombreux et éclaté, comme vous avez dit, une quarantaine là pour cette élection les élections présidentielles qui vont se tenir le 12 avril prochain. Et ce qui fait le résultat est que c'est impossible d'avoir une majorité absolue et on ne peut avoir que des formes de coalition de partis politiques, ce qui encourage l'instabilité finale. Du système politique global du Pérou.
Lycelle Quiros, Tania Romero Barrios rappelait combien aujourd'hui les parlementaires peuvent s'auto-protéger, se protéger les uns les autres, rester en poste malgré les scandales de corruption. Il y a au Pérou une prison spéciale pour les présidents qui ont été accusés de corruption. Alors, elle est occupée à 100%, mais il faut dire qu'il n'y a que 4 cellules. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment la corruption gangrène toute la classe politique. Le nouveau président, celui qui a été automatiquement nommé président après la chute de Dina Boluarte, José Reri, lui, il a été accusé de viol. La plainte a finalement été classée sans suite par le procureur général, qui est aujourd'hui lui-même accusé de corruption. Comment son arrivée au pouvoir d'un homme qui a été accusé de viol a fait réagir aussi des mouvements féministes et plus largement des mouvements de société contre les violences faites aux femmes dans ce mouvement social du mois de septembre?
C'est vraiment absolument incroyable qu'au Pérou, quelqu'un avec une plainte de ce type pour viol ait pu être nommé sans se poser la question. Donc il y a eu effectivement, et je pense qu'il faut souligner aussi dans ce grand mouvement de la jeunesse, des collectifs féministes qui sont à l'image de la région. C'est-à-dire qu'on a au Pérou, comme dans le reste de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine en général, des collectifs féministes qui sont très actifs et qui se sont immédiatement levés pour contester cette désignation. Malheureusement, comme vous l'avez rappelé, le Congrès aujourd'hui péruvien, il est très fort. C'est-à-dire que c'est lui qui concentre le pouvoir et il peut rédiger et promulguer des lois qui protège ses membres. Hein, c'est vraiment, on peut dire que le système, il est gangréné de l'intérieur et qu'il est difficile à ce moment-là, y compris pour le pouvoir judiciaire, qui est lui-même aussi effectivement touché par la corruption, de répondre à cela. Mais je pense que c'est une réforme véritablement constitutionnelle et autour de ce pouvoir du Parlement qu'il faudrait, à laquelle il faudrait réfléchir, parce qu'effectivement, c'est un serpent qui se mord la queue. On ne s'en sort pas depuis deux décennies.
Alors, une autre manifestation, Tania Romero Barrio, c'est à venir le 14 novembre. La date n'a pas été choisie au hasard. Qu'est-ce que c'est le 14 novembre?
Oui, tout à fait. Le 14 novembre a été la date dans laquelle, enfin, pendant les grosses manifestations qu'il y a eu dans les rues, en plein Covid, état d'urgence, etc., contre justement le gouvernement de Manuel Merino, ont entraîné par la répression policière la mort de deux jeunes, Inti Sotelo et Brian Pintado, en fait. Et c'est gravé dans la mémoire, en fait, notamment de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle la génération Z, en fait, a choisi aussi cette date pour donner non seulement un caractère symbolique, mais aussi inscrire cette mobilisation dans le cadre, en fait, de mobilisation un peu de long terme. Et je pense que c'est important de rappeler un petit peu l'historique, c'est-à-dire que cette génération Z, composée de jeunes de moins de 28 ans, en fait, c'est pas la première fois qu'elles se mobilisent. C'est-à-dire qu'elles se sont déjà énormément mobilisées contre Manuel Merino, à une période où quand même, disons, les contre-pouvoirs étaient tels que en fait, cette mobilisation a permis que Manuel Merino puisse partir, en fait, être destitué, en fait, 5 jours après, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce qu'il y a presque plus de contre-pouvoirs possibles, en fait, au sein du Parlement. Il y a eu les mobilisations de 2022-2023, et là, il y a ces mobilisations, en fait, de 2025. Donc, il y a un peu un historique de mobilisation, et là, l'idée aussi, c'est de montrer, en fait, que voilà, cette génération jeune, en fait, s'inscrit aussi au sein de toute une série de revendications qui vont au-delà de la question des retraites, en fait, et qui sont aussi plus politiques, disons, en termes de qui s'en aille tous, en fait, la question, disons, de critique structurelle, en fait, d'une démocratie qui n'est plus véritablement jugée comme telle. En fait, le Pérou, actuellement, semblerait ne plus avoir besoin d'un dictateur, puisque la démocratie a tellement été démantelée, on parlait de démocratie hybride, en fait, qu'actuellement, c'est un petit peu ce qui est en train de critiquer aussi la génération actuelle.
Tan gigantes, dijiste que nos va a pasar y que todo va a embraciar y me hacías con los brazos de manera circular y entonces nos lanzamos.
Le groupe péruvien Denver et cette chanson Olas Gigantes, des vagues géantes, qui date d'il y a quelques années. Vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode d'une série d'8 sur les grandes mobilisations partout dans le monde contre les inégalités et pour davantage de justice sociale, un nouvel ordre social. C'est ce que demandent aujourd'hui les manifestants au Pérou. Qu'ils s'en aillent tous aussi, adresse dirigée à tous les parlementaires, notamment péruviens, qui se partagent le pouvoir et se cooptent depuis des années au Parlement. Les manifestations qui ont éclaté fin septembre, elles portent aussi sur une mémoire très récente, la mémoire de la pandémie de Covid-19.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La
La pandémie, comme tout autre désastre, a démasqué la réalité de notre pays. Beaucoup de familles ont perdu ceux qui avaient un salaire, comme les parents. Les enfants se sont retrouvés abandonnés, sans argent. Et beaucoup de personnes âgées ont perdu leurs enfants qui prenaient soin d'eux.
Extrait d'un documentaire de France 24 au Pérou, les plus défavorisés balayés par la crise de Covid-19. À partir de mars 2020, la pandémie a tué 212 000 Péruviens parmi les plus forts taux de mortalité rapportés à la population. Près de 100 000 enfants ont perdu un parent ou les deux. Et comme les hôpitaux étaient incapables de répondre à l'urgence, la colère s'est ajoutée au deuil. Bonjour Arthur. Arthur Morenas.
Bonjour, merci pour l'invitation.
C'est nous qui vous remercions d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes à Madrid, puisque vous êtes chercheur postdoctoral à la Casa de Velázquez et chercheur associé à l'Institut français d'études andines. D'abord, est-ce qu'on sait comment la pandémie de Covid, outre la santé des gens, le plus important, comment a-t-elle aussi affecté leur emploi et donc leur revenu au quotidien ?
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que avant l'épisode et la crise du Covid, le Pérou connaissait déjà une situation économique qui s'était complexifiée puisque la fin du super cycle des matières premières avait entraîné une augmentation déjà de la pauvreté. En 2019, on avait environ 200 000 personnes qui étaient tombées sous le seuil de pauvreté.
Parce que l'économie péruvienne, elle est très dépendante de l'extraction des matières premières, en effet.
Et la pandémie du Covid et les mesures notamment de confinement ont beaucoup marqué les foyers, notamment les 70% de personnes qui travaillent dans l'informalité, qui ont du jour au lendemain perdu toute source de revenus et qui ont été dans l'obligation finalement assez rapidement de sortir, travailler, chercher quelque chose et ont été les premiers touchés notamment par la pandémie.
Le gouvernement a débloqué à ce moment-là une aide particulière pour celles et ceux qui avaient perdu leur emploi. Je crois que c'était des bons de l'équivalent de 150 à 200 euros. Comment les hôpitaux publics ont-ils absorbé les arrivées massives quotidiennes de malades ?
Alors en fait, les hôpitaux publics ont très vite été dépassés par l'ampleur de la crise, notamment puisque dans certaines régions, il manquait d'infrastructures hospitalières. Et dans d'autres régions, même quand les infrastructures hospitalières existaient, il n'y avait pas assez ou de médecins spécialistes ou même de lits ou de ventilateurs mécaniques pour faire face à l'afflux de population. Donc on a souvent, les hôpitaux ont été obligés, en fait on a tous les hôpitaux ont mis en place des espèces de grandes tentes où étaient entassées des dizaines de personnes en attente de traitement et qui recevaient un suivi plus ou moins important de la part des médecins. Donc les hôpitaux, notamment les hôpitaux publics, ont très vite été dépassés par la pandémie.
Et certains ont dû se tourner vers des cliniques privées qui en ont profité pour augmenter leurs prix. Arthur Morenas, dans quelle proportion ? Et outre l'immoralité de ce choix, est-ce que les cliniques ont le droit de monter leurs tarifs comme bon leur semble ?
Tout à fait. Alors en fait, dans le système sanitaire péruvien était divisé en fait en 3-4 systèmes. On a d'un côté les deux systèmes publics, l'un rapporté au ministère de la Santé, l'autre au système de sécurité sociale pour les personnes qui sont employées, qui sont des systèmes publics. Et ensuite, on a le système propre aux forces armées, aux policiers, et le quatrième système est le système privé. Très peu de population, très peu de gens avaient accès à des assurances privées avant le Covid. Donc, celles et ceux qui avaient accès à des assurances privées étaient couverts en règle générale dans le cadre de leurs hospitalisations, mais celles et ceux qui n'en avaient pas n'étaient pas couverts. Et donc, les cliniques ont vite augmenté leurs prix. On tournait autour d'une multiplication par 3-4 de l'hospitalisation avec des familles qui ont été obligées de s'endetter au niveau de 20 000 dollars pour leur séjour en hôpital. Et ensuite, on a également eu tout un business des tests, puisque on manquait de tests, bien évidemment. En plus, c'était des tests de mauvaise qualité, mais le coût d'un test pour savoir si on était contaminé tournait aux alentours de 150 euros pour faire un rappel rapide. Et donc, les cliniques avaient tout... était dans la possibilité de faire ça. Le gouvernement a mis en place un bras de fer avec les cliniques privées pour permettre des protocoles d'accueil des personnes qui étaient ne pouvaient pas être accueillis en hôpital public, les dériver vers un hôpital privé, avoir une gestion des coûts qui soit contrôlée. Mais les cliniques ont été très réticentes à mettre en place ces mesures. Et le président de l'époque, Martin Vizcarra, avait menacé d'exproprier ces cliniques. Donc finalement, un accord avait été trouvé, mais on était quasiment en fin de pandémie. Donc finalement, le gros de la crise était passé. Et de très nombreux foyers s'étaient endettés dans leur accès aux cliniques privées.
Alors, puisqu'au cœur des mobilisations au Pérou depuis un mois et demi, il y a la question de l'insécurité, de la vulnérabilité des citoyens face à l'emprise des groupes criminels contre lesquels le gouvernement et le Parlement ne font rien, voire qu'ils favorisent avec ces lois dont vous nous parliez tout à l'heure, Tania Romero Barrios. Est-ce que ces réseaux se sont développés pendant le Covid ?
Pendant le Covid et on va dire également immédiatement après. Ce qu'on va retrouver, bien évidemment, il y avait une étude de l'INEI, qui est l'équivalent de l'INSEE en France pour le Pérou, qui montrait que l'aggravation de la situation économique et de l'appauvrissement de la population allait très probablement entraîner une augmentation de la délinquance. Ce qu'on a pu observer immédiatement après l'épidémie, hein, vers 2021-2022, c'est vraiment comme ça que la délinquance a commencé à croître. C'était ce qu'on appelait le gota-gota, qui était en fait des systèmes de crédit informels, notamment pour les personnes qui avaient perdu leurs activités dans le cadre de l'informalité et qui essayaient finalement de se relancer dans le cadre de la reprise de la reprise des activités, et qui, n'ayant pas accès au système bancaire formel, passaient par ces réseaux de microcrédit qui en fait étaient des réseaux d'extorsion, qui ont étaient les premières entrées par les réseaux d'extorsion. C'est des choses qui existaient déjà avant l'épidémie du Covid, mais qui s'est vraiment multipliée et a pris une ampleur croissante à partir de 2020-2021, et qui a été un peu le début de la systématisation de la crise d'insécurité du pays, donc qui touchait pas directement les extorsions à des activités, mais qui entraient par ces crédits informels. On prenait un crédit et si on n'arrivait pas à rembourser dans le mois ou dans les deux mois, eh bien on recevait des menaces et ensuite on se faisait assassiner.
Un petit mot pour conclure, Arthur Morenas, pour savoir si, d'après vous, cette mémoire encore très fraîche de ce qui s'est passé pendant le Covid alimente le feu social, la colère d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle se nourrit encore du deuil et des injustices d'hier? Et quand je dis hier, c'est vraiment très récent, encore une fois, la pandémie de Covid.
Oui, tout à fait. Alors, j'aurais tendance à dire il y a deux plans. Il y a effectivement l'aggravation des inégalités, du sentiment d'inégalité, qui finalement n'a pas trouvé de débouché par la suite, puisqu'on est entré à partir de 2021 dans une aggravation encore de la crise politique. Donc, toutes les demandes d'égalité, de programmes sociaux, etc., sont tombées à l'eau dans ce cadre-là. On a d'un autre côté, c'est l'impact sur les systèmes sociaux, puisque la réforme des retraites dont vous parliez tout à l'heure avec Lycelle et Tania, qui aujourd'hui est au cœur des mobilisations, en tout cas des débuts des mobilisations, est très directement liée à l'affaiblissement des systèmes sociaux dans le cadre de la crise de la pandémie. Et ensuite, effectivement, on a l'aggravation de la crise politique et la prise de conscience politique de jeunes générations qui s'est manifestée, Tania en parlait tout à l'heure, dans le cadre des mobilisations de 2019, qui sont un petit peu la première pierre des mobilisations qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc il y a une mémoire et il y a une continuité qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Merci beaucoup Arthur Morena, chercheur postdoctoral à la Casa de Velázquez. Vous étiez à Madrid, vous êtes chercheur associé par ailleurs à l'IFEA. Un tout petit mot, Tania Romero Barrios, pour savoir si au sein du mouvement social, est-ce que certains sont volontaires pour prendre la place de ceux dont ils veulent le départ? Autrement dit, est-ce qu'il y a l'idée de continuer le mouvement en politique?
Alors, disons que la spécificité du Pérou, c'est que malheureusement, en fait, au sein des mobilisations sociales, il n'y a pas dans l'actualité, en fait, de référents spécifiques qui pourraient par la suite, en fait, être des candidats potentiels, en fait, aux élections ou à d'autres postes de pouvoir. Ça me semble quand même important de le mentionner. C'est aussi la raison pour laquelle cette génération Z, notamment, est jugée comme une génération très apartisane, en fait, parce qu'il y a une forte décrédibilité, en fait, au sein de cette classe politique, et même de méfiance d'espèces de récupération politique de la part des partis. Donc, dans l'état actuel, il n'y a pas de référent, en fait, mais il faudrait voir un peu ce que les mobilisations pourraient éventuellement construire par la suite, en fait, parce que les élections approchent et effectivement, voilà, il faudra voter quand même dans quelques mois.
Et en attendant, prochaine mobilisation, donc le 14 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tania Romero Barrios, doctorante en études hispaniques à l'Université Paris 8, membre élue du Conseil scientifique de l'Institut des Amériques et chercheuse associée à l'INALCO. Et je remercie Lycelle Siqueiros, qui était avec nous depuis la Guyane, professeur d'études latino-américaines à Cergy Paris Université. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
La présidente du Mexique, Catherine, porte plainte après une agression sexuelle en pleine rue.
Et cela témoigne de la persistance des violences contre les femmes au Mexique, pays où le machisme prédomine, souligne El Universal, El Heraldo de México et El País. Alors que la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, quittait le Palais National mardi pour se rendre dans un autre bâtiment du gouvernement, le ministère de l'Éducation, elle a accepté de discuter et de faire une photo avec des passants qui souhaitaient la saluer, décrit le quotidien mexicain La Jornada. Mais un homme en a alors profité pour passer son bras autour de son épaule. Il a touché la hanche et la poitrine de la présidente du Mexique tout en tentant de l'embrasser dans le cou, ajoute le quotidien La Nación. Quelle femme au Mexique peut affirmer n'avoir jamais vécu une telle situation, demande sous forme de question rhétorique El País. De nombreux hommes croient encore avoir le droit de toucher le corps d'une femme sans son consentement et en toute impunité, accuse encore El País, conforté d'ailleurs par ces chiffres de l'ONU. 7 Mexicaines sur 10 ont subi une forme d'agression au moins une fois dans leur vie depuis leur adolescence. 45% des femmes au Mexique disent aussi avoir été victimes de harcèlement de rue, soit 23 millions de personnes, ajoute El País. Un homme de 33 ans a d'ailleurs harcelé une jeune femme en pleine rue à San Juan del Río, dans le centre du Mexique, raconte le quotidien Excelsior. L'homme avait abordé cette femme près d'une banque, elle l'avait ignorée, il l'a alors agressée sexuellement et il est aussi accusé d'exhibitionnisme, précise le journal Excelsior. Un continuum de violence qui va jusqu'à l'assassinat. El Heraldo de México met en lumière le féminicide d'une femme de 27 ans, mère de 3 enfants. Elle a été tuée par son ancien compagnon. Et c'est donc pour toutes ces femmes au Mexique que la présidente Claudia Sheinbaum a finalement décidé de porter plainte après avoir subi cette agression sexuelle en pleine rue, même si elle a d'abord hésité à le faire, rapporte Proceso. Ce n'est qu'après avoir visionné les vidéos qu'elle dit avoir compris ce qui s'était réellement passé. La présidente mexicaine l'a déclaré hier lors d'une conférence de presse retransmise notamment par El País.
Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer.
J'ai décidé de porter plainte parce que c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que femme, et comme toutes les femmes d'ailleurs de notre pays. J'en ai déjà fait l'expérience quand je n'étais pas présidente, mais lorsque j'étais étudiante ou plus jeune, a confié Claudia Sheinbaum. Je me suis dit, si je ne porte pas plainte alors que c'est un crime, qu'adviendra-t-il des autres Mexicaines? Si c'est ce qui arrive à la présidente, que se passera-t-il pour toutes les autres femmes de notre pays? C'est quelque chose qui ne devrait pas se produire au Mexique, et je ne dis pas cela en tant que présidente, mais en tant que femme, insiste Claudia Sheinbaum. Personne ne doit violer notre espace personnel. Le harcèlement, l'agression sexuelle sont des crimes. Crimes passables de 4 à 5 ans de prison, mais moins de 5% des femmes dénoncent leurs agresseurs au Mexique, relève El País, car il est encore compliqué de porter plainte, de se présenter devant la police, devant la justice, d'être interrogée en tant que femme, comme si l'on était responsable de son agression, souligne le journal mexicain Proceso, avec cette idée aussi tenace que rance que des femmes ne devraient pas provoquer par leur tenue vestimentaire ou leur présence dans certains lieux, comme une double peine donc pour les victimes, note Proceso. C'est un changement de perspective déterminant qu'offre aujourd'hui Claudia Sheinbaum, estime El País. Sa plainte a été déposée auprès du parquet de Mexico qui poursuit pénalement les agressions sexuelles et le harcèlement de rue. La présidente du Mexique veut que ce type de poursuite pénale soit engagée pour les mêmes faits dans les 32 États qui composent le Mexique, indique Proceso et El País, avec aussi une campagne de sensibilisation et d'éducation à destination des hommes et des garçons pour qu'ils apprennent enfin à respecter les femmes. Et puis l'agression contre Claudia Sheinbaum a également mis en évidence le risque que court la présidente. Elle tient à maintenir un lien étroit avec le peuple mexicain, remarque El Universal. La question de sa sécurité se pose donc alors que Claudia Sheinbaum lutte lutte courageusement contre la corruption, écrit El Universal. Elle s'en prend aussi aux intérêts des narcotrafiquants.
Merci beaucoup Catherine Dutus, qui n'est pas sans faire écho à la discussion que nous avons eue juste avant sur le Pérou. Merci beaucoup. Demain dans Culture Monde, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités pour une table ronde d'abord consacrée au Soudan, où le massacre continue, et pas seulement à El Fasher. Clément Déa et le journaliste Tristan Coloma, qui revient de territoire récemment récupéré par l'armée régulière soudanaise, en parleront. Et puis, cette table ronde sera précédée d'un retour des prisons syriennes. Arthur Saradin, le journaliste qui, dans son livre Le Nom des Ombres, raconte la répression et les rouages du système concentrationnaire à l'œuvre en Syrie, sous les règnes d'Assad, père et fils. Il sera l'invité de Mélanie Chalandon demain. Dans un instant, les Midis de Culture.